Chapitre 11. Il y avait 3 ans que Stein vivait dans cette paisible retraite. Adoptant le caractère du pays qu'il habitait, il vivait au jour le jour, comme disent les Français, ou en d'autres termes, suivait le conseil de sa bonne amie, la tante Marie, qui lui disait que le jour de demain ne devait pas nous faire perdre celui d'aujourd'hui, et que la seule chose dont on devait se préoccuper, c'était de faire en sorte que celui d'aujourd'hui ne nous gâtât pas celui de demain. Pendant ces 3 années, le jeune médecin avait été en correspondance avec sa famille. Son père et sa mère étaient morts pendant qu'il se trouvait à l'armée de Navarre. Sa sœur Charlotte avait épousé un fermier aisé qui avait fait des 2 jeunes frères de sa femme 2 laboureurs peu savants, il est vrai, mais habiles et laborieux. Stein se voyait donc entièrement libre et maître de disposer de son sort. Il s'était dévoué à l'éducation de la jeune malade à laquelle il avait sauvé la vie, et quoiqu'il cultivât un sol ingrat, à force de patience, il était parvenu à y faire germer les premiers éléments d'une instruction rudimentaire. Mais ce qui surpassa ses espérances, ce fut le parti qu'il tira des facultés musicales exceptionnelles dont la nature avait doué la fille du pêcheur. Elle avait une voix incomparable et il ne fut pas difficile à Stein, qui était bon musicien, de la diriger avec succès, comme on fait avec les branches de la vigne, qui sont à la fois flexibles et vigoureuses. Mais le maître, dont le cœur était bon et tendre, et dont le caractère avait une propension à la confiance qui approchait de l'aveuglement, s'éprit de son écolière. La tendresse exaltée du pêcheur pour sa fille et l'admiration que la tante Marie a montrée pour elle contribuèrent à exciter en lui-même ce sentiment. Car tous deux avaient un certain pouvoir de sympathie communicative qui devait exercer son influence sur une âme sincère, bienveillante et douce, comme celle de Stein. Il se persuada donc avec Pedro Santalo que sa fille était un ange et avec la tante Marie que c'était un prodige. Stein était un de ces hommes qui peuvent assister à un bal masqué sans arriver à se persuader que derrière ces physionomies grotesques, ces figures de carton peint, il y a d'autres physionomies et d'autres figures qui sont celles que chaque individu a reçues de la nature. Et si Santalo était aveuglé par son amour paternel excessif et la tante Maria par sa grande bonté, tous deux arrivèrent à faire partager à Stein leur aveuglement. Mais ce qui le séduisit par-dessus tout, ce fut la voix douce, pure et pénétrante de Marie. Il est certain, se disait-il à lui-même, que celle qui exprime d'une manière si admirable les sentiments les plus sublimes possède une âme pleine d'élévation et de tendresse. Mais comme un grain de froment semé dans un riche terrain se développe et jette des racines avant que ses germes se montrent à la lumière du jour, de même croissait et poussait des racines dans le cœur de Stein cet amour tranquille et sincère qu'il avait ressenti avant de pouvoir se le définir à lui-même. De son côté, Maria s'était aussi attachée à Stein, non qu'elle appréciât ses excellentes qualités, qu'elle comprît la supériorité de son âme et de son intelligence, ou qu'elle ressentît pour lui cet attrait qu'exerce toujours l'amour vrai sur la personne qui en est l'objet, mais bien par pure reconnaissance et naïve admiration pour le talent du médecin et le génie du musicien qu'il avait initié au secret de l'art. Du reste, l'isolement dans lequel elle vivait éloignait d'elle tout terme de comparaison. Don Modeste n'était plus d'âge à figurer dans le tournoi des prétendants. Momo, outre qu'il était d'une laideur repoussante, conservait toute son aversion contre Marie, qu'il continuait à appeler la mouette, et la fillette le regardait avec un souverain mépris. Il est certain cependant qu'il ne manquait pas de jeunes garçons dans le village, à commencer par le barbier, qui s'obstinait à soupirer pour Marie. Mais tous étaient loin de pouvoir entrer en lutte avec Stein. 3 étés et 3 hivers s'étaient écoulés dans ce paisible état de choses quand survint ce que nous allons raconter. Il se formait dans le tranquille Villamar, qui l'eût dit, une intrigue. Et son promoteur et son chef étaient, qui l'eût pensé, la tante Marie, et son confident était, qui l'eût cru, Don Modeste. Bien que ce soit une indiscrétion que d'épier les gens, écoutons-les, cachés dans le jardin, derrière cette orangée dont le tronc reste ferme, quoique ses fleurs se soient flétries et que ses feuilles soient tombées, comme la résignation reste au fond de l'âme, même après que la joie est éteinte et que les espérances sont mortes. Écoutons-les pendant que le frère Gabriel, qui est à 1000 lieues de ce qu'ils disent, quoique matériellement bien près d'eux, attache ses laitues pour les rendre blanches et tendres.
Ce n'est pas moi qui l'imagine, Dom Modeste, disait l'instigatrice, c'est une chose réelle. Il faudrait ne pas avoir Dieu à la tête pour ne pas le voir. Donc Frédéric aime Marie Salade, qui, de son côté, ne trouve pas que le docteur soit un sac de paille.
Tante Marie, qui donc pense à cela ? Répondit Dom Modeste, dont la calme et tranquille existence n'avait jamais réalisé le type éternel, classique mais invariable, de l'inséparance alliance de Mars et de Cupidon. Qui donc pense à cela ? Répéta Dom Modeste, du même ton qu'il aurait dit. Qui donc pense à jouer au billard ou à faire résonner le tambour de basque ?
Les jeunes gens, Dom Modeste, les jeunes gens, et s'il n'en était pas ainsi, le monde finirait. Mais dans le cas dont il s'agit, il est nécessaire de leur donner un coup d'éperon, parce qu'il me semble que ces gens de là-haut agissent avec un calme excessif. Il y a en effet 2 ans que notre homme aime tant son rossignol, comme il l'appelle, que cela saute aux yeux. Et pour mon compte, je suis sûre qu'il ne lui a pas encore dit « tu as de beaux yeux ». Vous qui tenez un rang, qui êtes un homme de considération et pour qui Don Frédéric a tant d'estime, vous devriez lui faire une petite insinuation là-dessus et lui donner un bon conseil pour leur plus grand bien et celui de nous tous.
Excusez-moi, Tante Marie, répondit Don Modesto, mais Ramon Pérez est intéressé dans cette affaire. C'est un ami et je ne veux pas le desservir. Il me rase pour ma bonne mine et aller ainsi contre son intérêt serait mal agi. Cela lui fait beaucoup de peine de voir que Marie Salade ne l'aime pas. Il est devenu si maigre et si jaune que cela fait peine à voir. L'autre jour, il disait que s'il n'épousait pas Marie Salade, il briserait sa guitare et que, ne pouvant pas se faire moine, il irait rejoindre les factieux. Vous voyez donc, Tante Marie, que de toute manière, je me compromets si je me mêle de cette affaire.
Commandant, vous prenez donc pour argent comptant ce que disent les amoureux? Comment pouvez-vous croire que Ramon Pérez, qui n'est pas capable de tuer un moineau, s'en aille tuer des chrétiens? Mais considérez que si Don Frédéric se marie, il restera ici pour toujours. Et quel bonheur ce serait pour nous tous! Je vous assure que cela me fend le cœur quand il parle de s'en aller. Heureusement que chaque fois nous lui ôtons cette idée de la tête. Et la jeune fille, comme elle serait heureuse! Il faut que vous sachiez que Don Frédéric gagne beaucoup d'argent. Quand il soigna le fils de l'alcade, Don Perfetto lui donna 100 réaux brillants comme 100 étoiles. Quel joli couple il ferait, mon commandant!
Je ne dis pas non, Tante Marie, répondit Don Modesto, mais ne me mêlez pas à cette affaire et laissez-moi garder une neutralité absolue. Je n'ai pas 2 figures, j'ai celle que rase Ramon et pas d'autre. Dans ce moment, Marie Salade entra dans le jardin. Ce n'était plus du reste la jeune fille ébouriffée et mal ajustée que nous avons connue. Bien coiffée et vêtue avec soin, elle venait tous les matins au couvent, où elle était attirée moins par son affection ou sa gratitude pour ceux qui l'habitaient que par le désir d'entendre Stein et d'apprendre de lui la musique. Car elle était chassée de la cabane par l'ennui de s'y trouver seule avec son père, qui la divertissait peu.
« Et donc, Frédéric, dit-elle en entrant.
Il n'est pas encore revenu de voir ses malades, répondit la tante Marie. Il devait vacciner aujourd'hui plus d'une 12aine d'enfants. C'est comme je vous le dis, Don Modesto, il a tiré le pu, comme vous dites, de la mamelle d'une vache. Car les vaches ont un contrepoison contre la petite vérole. C'est bien certain, puisque Don Frédéric le dit.
C'est tellement vrai, répondit Don Modesto, que c'est un Suisse qui en est l'inventeur. Cependant, quand j'étais à Gaète, j'ai vu les Suisses qui forment la garde du pape, mais aucun d'entre eux ne m'a dit que c'était lui qui en était l'inventeur.
« Si j'avais été sa sainteté, dit la tante Marie,
J'aurais récompensé l'inventeur par une indulgence plénière. Assieds-toi, ma petite Marie-Salade, car j'ai soif de te voir. »
Non, répondit celle-ci, je m'en vais.
Tu ne pourrais aller chez des gens qui t'aiment davantage, dit la tante Marie.
Qu'est-ce que cela me fait qu'on m'aime? Répondit Marie-Salade. Qu'ai-je à faire ici si Don Frédéric n'y est pas?
Allons, tu ne viens donc ici que pour voir Don Frédéric, petite ingrate.
Et sans cela, pourquoi viendrais-je? Répondit la jeune fille. Serait-ce pour me trouver avec Momo, qui a les yeux, la figure et l'âme tout de travers?
Ainsi, tu aimes donc beaucoup Don Frédéric? Demanda la bonne vieille.
Je l'aime, répondit Marie-Salade. Et si ce n'était pour lui, je ne mettrais pas les pieds ici pour ne pas rencontrer ce démon de Momo qui a un aiguillon dans la langue comme les abeilles dans la queue.
Et Ramon Pérez? Demanda malicieusement la tante Marie pour convaincre Don Modesto que son protégé devait renoncer à toute espérance.
Marie-Salade poussa un éclat de rire.
Si ce raton Pérez, Momo avait donné ce sobriquet au jeune barbier, si ce raton Pérez, répondit-elle, tombe dans la marmite, ce n'est pas moi qui le plaindrai, ni surtout qui l'écouterai chanter. Car quand il chante, il m'attaque le système nerveux, comme dit Don Frédéric, qui prétend que je l'ai plus susceptible que les cordes d'une guitare. Vous allez voir, tante Maria, comment chante ce Ramon Pérez.
Marie-Salade ramassa vivement une feuille d'aloès qui était par terre, parmi celles dont le frère Gabriel se servait comme de paravent contre le vent du nord, pour garantir ses tomates quand elles commençaient à sortir de terre, et, l'appuyant sur son bras comme une guitare, elle se mit à contrefaire d'une manière grotesque les gestes de Ramon Pérez, et avec son rare talent d'imitation et ses roulades, elle chanta ainsi.
« Qu'as-tu donc, homme de Dieu, que tu deviens tout défait ? C'est parce que tu as jeté les yeux sur un château trop élevé. »
Oui, dit Don Modesto qui se rappela les sérénades à la porte de Rosita. Ce pauvre Ramon a toujours porté les regards bien haut. Les événements qui avaient suivi n'avaient pu persuader à Don Modesto que Rosita n'était pas l'objet qui avait attiré les fameuses sérénades, parce qu'une idée qui entrait dans le cerveau de ce brave homme y tombait comme dans une tirelire, et lui-même ne pouvait réussir à l'en retirer. Les cases de son entendement étaient à la fois si étroites et si réglées qu'une fois qu'une idée pénétrait dans la case correspondante, elle y restait enchâssée, enfoncée, incrustée, in secula seculorum.
Je m'en vais, dit Marie en jetant sa feuille d'aloès de telle manière qu'elle vint frapper avec bruit contre le frère Gabriel qui, tournant le dos et accroupi, attachait son 125e lien.
Jésus ! S'écria tout surpris le frère Gabriel. Puis il se remit à attacher ses liens sans ajouter un mot.
Quelle décharge ! Dit Marie en riant. Don Modesto, prenez-moi pour artilleur quand vous obtiendrez des canons pour votre fort.
Ce n'est pas gentil, Marie. Ce sont là de mauvaises plaisanteries et tu sais que je ne les aime pas, dit la bonne vieille mécontente.
Dis-moi ce que tu voudras, mais laisse le frère Gabriel en paix, car c'est là le seul bien qui lui soit resté.
Allons, tante Marie, ne vous fâchez pas, répondit la mouette. Rassurez-vous en réfléchissant qu'à part ses lunettes, le frère Gabriel n'a rien du vert.
Mon commandant, dites à dame Rosa Mystica qu'elle transporte son école dans votre fort quand il aura des canons de 24, afin que ses élèves soient bien défendus des embûches du démon qui se cache dans les guitares discordantes.
Je m'en vais puisque Don Frédéric ne vient pas. Je suis sûre qu'il vaccine tout le village, y compris dame Rosa Mystica, le maître d'école et l'alcade.
Mais la bonne vieille, qui était habituée aux manières peu aimables de Marie, qui, pour cette raison même, ne la blessait pas, l'appela et lui dit de s'asseoir à côté d'elle. Don Modesto, qui en conclut que la bonne dame allait armer ses batteries, fidèle à la neutralité qu'il avait promise, prit congé, fit demi-tour à droite et battit en retraite, non sans que la tante Marie lui eût donné deux laitues et une botte de radis.
Ma fille, dit la vieille quand elles furent seules, que dirais-tu si Don Frédéric t'épousait et si tu devenais ainsi madame la doctoresse, la plus heureuse des femmes, avec cet homme qui est un autre Saint-Louis de Gonzague, qui est si savant, qui joue si bien de la flûte et gagne de si bon argent. Tu serais parée comme un petit palmier, tu mangerais et boirais comme si tu avais un majorat, et surtout, mon enfant, tu pourrais soutenir ton pauvre père qui se fait vieux, si bien que c'est une affliction que de le voir encore aller à la mer, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour que tu ne manques de rien. De cette manière aussi, Don Frédéric resterait ici, consolant et soulageant chacun dans ses mots, comme un ange qu'il est. Marie avait écouté la bonne vieille avec une grande attention, tout en feignant d'être distraite. Quand celle-ci eut terminé, elle garda le silence un moment, puis elle dit sur le ton de l'indifférence « Je ne veux pas me marier !»«
Allons !» s'écria la tante Marie. « Est-ce que tu veux te faire religieuse ?»«
Pas davantage !» répondit la mouette.
« Comment ? » dit la tante Marie à toute surprise. « Tu ne veux être ni chair ni poisson ?»
Je n'ai jamais entendu rien de pareil. La femme, mon enfant, doit appartenir à Dieu ou à son semblable, autrement, elle n'accomplit pas sa vocation, ni celle d'en haut, ni celle d'ici-bas.
Eh mon Dieu, que voulez-vous ? Je n'ai de vocation ni pour me marier, ni pour me faire religieuse.
Alors, mon enfant, ta vocation est celle de la mule. Quant à moi, ma petite Marie, je n'aime rien de ce qui sort de l'ordre commun, et cela va mal aux femmes en particulier de ne pas faire comme tout le monde. Du reste, ton cœur est entre tes mains et c'est ton affaire. Mais, ajouta-t-elle avec sa bonté habituelle, tu es bien jeune et tu as le temps de faire plus de tours que de clés dans la serrure. Le temps fait son œuvre sans avoir besoin qu'on l'aide.
Marie Salade se leva et partit.
Oui, disait-elle en s'en allant et tout en arrangeant son mouchoir de tête. « Il m'aime ? Oh, cela, je le savais bien. Mais il m'aime comme le frère Gabriel aime la tante Marie, c'est-à-dire comme peuvent s'aimer les vieilles gens. Il ne s'exposerait pas au danger de s'enrhumer sous ma fenêtre. Il est vrai que s'il m'épouse, il me fera une existence agréable. Oh, cela est certain. Il me laissera faire ce qui me plaira, il me jouera de la flûte quand je le lui demanderai, et m'achètera ce que je voudrais et me sera agréable. Si j'étais sa femme, j'aurais un fichu de crêpe comme celui de Couel, la fille de l'oncle Jean Lopez, et une mantille de blonde d'Almagro comme la femme de l'Alcade. C'est cela qui les ferait enrager. Mais je crois que Don Frédéric, qui s'enflamme comme le lard dans la poêle quand il m'entend chanter, ne pense pas plus à se marier avec moi que Don Modeste ou avec sa chère Rose, de tous les diables. Dans tout ce beau monologue, il n'y eut pas une pensée ni un souvenir pour son père, dont le soulagement et le bien-être avaient été les premières considérations qu'avait fait valoir la tante Marie.